On est de retour sur l'arrache pour cette journée spéciale enfance-jeunesse. Vous avez pu entendre Vincent Rousseau, Bastien Lebas, des jeunes sapeurs-pompiers. Je suis toujours avec Mathis.
Salut.
Mathis de l'atelier Radio Collège. Syriac, jeune de la Cajun de Montbazon. Salut ouais. Syriac. Et Thierry Pasteau. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Thierry, il est capitaine, chef du centre du Val-d'Ulis, on peut le dire comme ça. Il va présenter sa caserne. Il travaille également à la CCVI. Thierry, il va se présenter, dire qui il est dans la vie. Et on abordera avec lui l'organisation de la caserne, le déclenchement des secours, les numéros d'appel d'urgence. Voilà. Je te laisse la parole, Thierry, pour te présenter personnellement et puis ton lieu de où tu officies la plupart du temps.
Ok, donc Thierry Pasteau, donc chef de centre au centre de secours du Val-d'Ulis, hein, capitaine, au grade de capitaine. Donc je suis responsable du centre depuis 22 ans maintenant et 27 ans de sapeur-pompier volontaire. Donc le centre de secours du Val-d'Ulis, pour sa petite histoire, c'est un regroupement de trois centres de secours, donc trois petits centres qui étaient sur Mont, Artane et Pont-de-Rouen, donc avant les années 96. Donc nous avons effectué un regroupement donc de ces centres qui a permis la construction d'un centre neuf donc sur l'année 2000.
Ça fait déjà donc, 15 ans.
Oui, tout à fait. Donc ça fait quelques années. Donc regroupement qui s'est fait donc suite, construction d'un centre neuf et inauguré en 2000. Nous avons à l'heure actuelle 45 sapeurs-pompiers volontaires.
Oui.
Donc il faut savoir qu'au centre au Val-d'Ulis, nous sommes que des pompiers volontaires.
Oui.
Hein,
donc pas de professionnels, tu entends pas.
Pas de professionnels, hein, donc c'est 64 centres du département, hein, parce que sur 70 centres dans le département, il y a six centres de secours principaux.
Géographiquement sur Tours.
Alors géographiquement sur Jouy-les-Tours, Tours Centre, Tours Nord. Ouais. Et après, donc, nous avons sur Chinon, Loche et puis Amboise.
Oui, réparti un peu.
Voilà, réparti un petit peu sur le département. Donc après, donc, nous avons 64 centres de secours ou centres de première intervention. Donc des centres qui sont un peu plus, plus petits. Et donc, c'est-à-dire, c'est des centres qui ne sont pas, c'est centres de première intervention qui ne sont pas équipés de véhicules de secours à personne.
Le vôtre étant un centre de secours, donc plus gros.
Donc le nôtre étant un centre de secours un peu plus gros, donc équipé d'une ambulance qu'on pourrait appeler véhicule de secours aux victimes et blessés. Et puis véhicules donc incendie, feu urbain et feu ruraux.
Combien de véhicules?
Donc nous avons 4 véhicules, donc véhicules donc toute utilité, donc pour les opérations diverses, fourgon pontonne donc pour tout ce qui est feu urbain et CCF camion citerne feu de forêt, donc qui est pour tout ce qui est feux ruraux en campagne ou voilà. Ou dans,
là tu comptes pas les petites voitures qu'on voit.
Alors les petites voitures que l'on voit, nous on en a qu'une, donc c'est un véhicule, donc nous c'est un véhicule de chef de groupe, hein, c'est un véhicule de commandement quand même, et qui sert aussi donc de véhicule de liaison. D'accord. Pour aller pour le personnel, pour aller en formation.
Bah, vous êtes tellement visible que je croyais qu'il y en avait plus. Mathis.
Pourquoi avoir fait un regroupement des trois centres?
Alors nous avons fait un regroupement des trois centres à l'époque parce que bon voilà, c'est un directeur qui est arrivé à une époque et on avait tous, il y avait des petits centres dans toutes les communes, mais des petits centres qui n'étaient pas spécialement en bon état. Et de rénover, ça devait faire 130 centres, je pense, si je me rappelle bien, à l'époque. Donc il n'y avait pas possibilité de rénover 130 centres avec du matériel qui était quand même très vétuste, parce qu'il faut savoir qu'en 90, on avait encore du matériel qui datait du débarquement de la dernière guerre mondiale, c'est-à-dire du matériel qui était récupéré des Dodge de l'armée, qui a été récupéré, qui avait été transformé pour faire des véhicules incendies. Donc ça commençait dans les années 90 à faire un peu... Voilà,
un peu vieillot. Ouais.
Donc un peu vieillot. Il n'était pas possible donc, de rénover tous les véhicules et dans tous les centres du département. Et donc tous les centres qui se retrouvaient proches, 2, 3, 4 kilomètres, on essayait de regrouper ces centres-là. Déjà pour avoir du personnel disponible aussi en journée. Et puis donc de permettre de construire un centre neuf et aussi avoir du matériel beaucoup plus récent à l'époque.
on les voit, hein, ces casernes maintenant désertes. Les gens savent toujours, ils sont toujours très attachés à ces casernes désaffectées maintenant. Ils savent toujours, ils parlent toujours de l'ancienne caserne des pompiers, même 20 ans après. C'est dire si les gens y sont attachés.
Tout à fait, mais c'est normal. Hein. Bon,
ça marque.
Ça a marqué à l'époque, oui, ça a marqué. Donc le regroupement, ça a énormément marqué parce que. Dans les petites communes, les pompiers sont très importants et à l'époque, les pompiers étaient aussi au niveau beaucoup dans l'associatif. Donc c'est vrai que le métier a énormément changé au moment des regroupements et surtout quand les centres se sont retrouvés avec des ambulances. Parce que là, le nombre d'interventions a vraiment augmenté du jour au lendemain et donc c'est devenu un peu plus professionnel que ça l'était à l'époque.
La vie de la caserne, est-ce qu'en tant que chef de centre, tu dois gérer les plannings? Est-ce que c'est un casse-tête de pouvoir mettre en place les astreintes, ou en tout cas ceux qui vont être là 24 heures sur 24 pour intervenir?
Alors les plannings, oui, ça devient de plus en plus un casse-tête parce que bon voilà, on avait une époque, il y avait beaucoup d'activités professionnelles sur les communes, donc on arrivait à avoir des personnels disponibles en journée. Maintenant, ça commence à être difficile parce que bon voilà, le travail est plus donc situé sur l'agglo, les choses comme ça.
Oui.
Et donc, en journée, les personnes partent au travail et donc on a du mal à arriver à avoir le nombre de personnes disponibles en journée. Donc, à l'heure actuelle, on essaie dans les recrutements d'essayer de voir de cibler plus les gens qui sont donc les personnes qui sont en 3-8. De façon à avoir des personnes disponibles en journée.
Oui.
Et aussi, on se penche un petit peu plus sur les personnes féminines, donc qui se trouvent des femmes au foyer ou des choses comme ça.
Combien de femmes
Alors nous, on a donc 11 femmes sapeurs-pompiers volontaires.
Sur 45
Sur 45. Donc de 17 ans à 36 ans.
Il y a d'ailleurs un article dans le bulletin municipal de Mont que je vous invite
un hommage qui a été fait
à lire.
Voilà, pour les femmes l'année dernière, aussi bien au niveau du calendrier de l'Union départementale.
Alors quand il y a une alerte, quand vous recevez, quand on vous commande une intervention, on imagine le pompier qui saute, qui s'accroche au tuyau et qui descend et qui va très vite dans son véhicule. Combien de personnes sont à la caserne et combien de personnes sont chez elles et mobilisables d'astreinte?
Alors, il faut savoir que sur le secteur, dans les centres de secours de volontaires, on n'a personne en caserne.
D'accord.
On est tous donc déclenchés par sélectif. Donc, on a une garde, une astreinte qui est mise en place donc du lundi jusqu'au lundi suivant. Donc, astreinte de prévue donc au moins
une
déjà
semaine.
Une semaine, donc de 18h jusqu'à 7h le lendemain matin, parce que voilà, c'est là qu'on trouve des personnes disponibles, le samedi, le dimanche. Et après, en journée, c'est donc on a un système par téléphone où que les gens peuvent se mettre disponibles dès qu'ils sont chez eux et à moins de 5 minutes de la caserne. Donc, les personnes sont déclenchées donc par sélectif, se rendent à la caserne. Et donc là, après, prennent connaissance du départ, s'habillent et donc peuvent partir en intervention. Donc on arrive à faire en départ entre 10 et 12 minutes.
10 et 12 minutes, le temps moyen entre le moment où ça sonne et le moment où on est prêt à intervenir.
Le temps de partir.
D'accord.
Parce que bon, voilà, il y a le trajet donc du domicile au centre qui est, et en plus qui devient assez difficile parce qu'il y a de plus en plus de circulation et tout.
Oui.
Donc
c'est ça.
Les délais se rallongent et puis bon, voilà, on est avec notre véhicule civil, donc on ne peut pas se permettre de faire trop d'infractions sur la route.
Chacun des sapeurs-pompiers volontaires de la caserne de Mont est mobilisable sur une intervention, n'importe laquelle? Où il y a un planning par rapport à certaines compétences de chacun, plus en incendie, en secours?
Alors, oui, bien sûr. Il y a des formations. Donc, suivant l'ancienneté de la personne, elle aura une place bien définie dans le véhicule et une fonction aussi définie sur l'intervention. Donc, il y a un chef d'agrès, ce qu'on appelle. Donc, chef d'agrès, c'est le responsable du véhicule, de l'intervention,
ouais.
Enfin, du véhicule, donc du personnel qu'il a dans son véhicule et de l'intervention, s'il est tout seul.
Oui.
Un conducteur, formé, c'est pareil, suivant le véhicule.
Oui, parce que c'est pas évident.
C'est pas évident non plus. Donc, il faut déjà, donc, pour certains véhicules, avoir bien sûr le permis poids lourd, mais il faut aussi savoir faire fonctionner les différents, les pompes ou les choses comme ça sur le véhicule. Et après, donc, on a des formations aussi sur les véhicules, feux de forêt. Donc, c'est des formations, donc, de conduite tout terrain. Oui. Donc voilà, donc on est obligé, ces personnes sont obligées d'aller en formation et donc on est obligé de suivre aussi au niveau sécurité toutes ces choses-là. Quoi.
Alors les interventions, avant de venir sur vos structures de rattachement, les interventions, à quoi elles ressemblent, la moyenne des choses pour lesquelles vous êtes appelé, qu'est-ce que c'est et combien, à quelle fréquence dans la semaine par exemple?
Alors nous avons à peu près environ 400-450 interventions par an. Mmh. Sur ces 450 interventions, nous avons 80% c'est du secours à victime. Donc secours à victime, ça représente donc le blessé. Le blessé sur un lieu public, le blessé à domicile, les malaises et les accidents de la route. Et autrement, on peut avoir malaise à domicile, c'est en cas de carence d'ambulancier privé.
D'accord.
C'est-à-dire que, alors tout ça, ça dépend de l'appel. Si, si c'est un prompt secours qu'on peut appeler, donc voilà, la personne à l'appel pour quelqu'un qui est en arrêt cardio-ventilatoire. Ou,
oui.
Donc là, on déclenchera les pompiers tout de suite parce qu'on sait qu'on peut les avoir et qu'ils vont réagir très rapidement.
Très rapidement.
Et par contre, si c'est un malaise, qu'il n'y a pas de fonction vitale de toucher, ça sera un ambulancier privé.
D'accord.
Mais par contre, s'il y a carence de celui-ci, ça sera les pompiers qui interviendront.
On va faire une coupure musicale et on se retrouve juste après pour la dernière partie. L'émission consacrée aux sapeurs-pompiers de Mont avec Thierry Pastot comme invité. À tout de suite sur La Rage.
Yeah.
On est de retour sur la rage, le 97.4, en direct de l'hôtel de ville de Mont pour cette dernière journée de direct, cette semaine FM de Mont. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur internet, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le www.la-rage.fr. Revenons à notre émission sur les pompiers de Mont avec Thierry Pasto comme invité. Mathis est toujours avec moi, ça va
toujours.
Mathis
ouais.
Thierry, on parlait des interventions, tu nous disais que ça concernait beaucoup de les secours aux personnes. Quel autre type d'intervention on retrouve? Là, on avait une petite journée d'orage dimanche. Est-ce que par exemple ça vous a obligé à aller sauver des gens dans des caves?
Alors, sauver des gens dans des caves, non, pas à ce point-là, mais oui, nous nous sommes retrouvés avec des caves et des sous-sols inondés, hein, donc
dimanche, là, ouais.
dimanche en fin d'après-midi. Donc nous avons eu une dizaine d'interventions rien que sur notre secteur. Donc oui, ça arrive de temps en temps ce genre d'intervention si
c'est
y a des orages.
Ouais. Ouais.
Donc voilà. Et puis autrement, nous avons donc voilà le feu, donc qui représente une dizaine d'interventions donc par an.
Alors c'est pourtant pour ça que les pompiers sont connus. Hein. Le feu, c'est quand même la représentation principale quand on parle de pompiers, et c'est pour autant même pas, je sais pas, ça fait 2% de vos interventions.
Ouais, ça plus, fait un peu plus. Hein. Donc ouais. On est rendu à 8%.
Ouais.
Hein. Tous les ans, ça a tendance à baisser. Bon, tant mieux, hein, parce
oui,
que bon, voilà. Mais bon, ben voilà, là, c'est la prévention.
C'est des négligences avec le gaz, enfin des accidents domestiques la plupart du temps.
Oui, c'est ça, c'est à peu près ça, parce que bon, maintenant les maisons sont quand même mieux conçues, il y a plus de sécurité. Bon, voilà, on fait moins de feux de cheminée, donc il y a moins de risques de propagation. Enfin, il y a plein de choses comme ça, la prévention, donc qui a fait beaucoup. Et puis les constructions aussi, quoi. Puis bon, après, maintenant, il y a aussi donc ce qui se met en place, les détecteurs, hein, qui deviennent obligatoires. Donc ça, j'en profite un petit peu pendant que j'ai le micro
vas-y.
Lancer un petit peu et surtout de faire. C'est obligatoire, oui,
donc,
c'est une chose qui est
fumée,
obligatoire. Et ben, faut le faire, faut l'acheter. Ça vaut donc entre 8 et 15 euros. À peu près. Mais ça peut. Alors, c'est vrai que ça ne va pas sauver la maison.
Non.
Hein, c'est pas ça qui va sauver la maison, mais ça sauve des vies. Ça permet donc. Ça permet d'être alerté au moindre dégagement de fumée.
Oui.
Et déjà de pouvoir au moins évacuer la maison ou les combles qui sont en feu. Donc, après, ça peut permettre de limiter les dégâts parce que, donc, à partir du moment que le feu est découvert plus tôt. On peut réagir plus tôt et donc voilà, donc ça peut aussi limiter les dégâts. Mais dans un premier lieu, c'est aussi pour sauver des vies. Donc je conseille donc à tout le monde de respecter cette loi et cette réglementation et obligation que l'on a et que, bon voilà, c'est 8 ou 15 euros quoi.
Les numéros d'appel, on sait que bon, tout le monde connaît le 18, il est inscrit sur vos camions, il est toujours utile de les rappeler ces numéros-là, mais globalement ils sont quand même bien ancrés dans la mémoire des gens. Le 18, le 15, le 112, ce sont les trois numéros d'urgence. Si quelqu'un à Mont est victime d'un incident qui nécessite votre intervention, dans un réflexe il va composer l'un de ces numéros. Ça tombe sur une centrale d'appel qui est située où? Comment ça se passe? Après, le lien entre la centrale et vous?
Alors, le 15, le 18, le 112, donc vous arrivez au même endroit. C'est une plateforme, hein, donc c'est un regroupement qui a été fait. Donc c'est le CETRA, le centre de traitement d'appel. Et donc, c'est un bâtiment qui a été construit il y a 8 ans environ. Donc un regroupement entre le SAMU et les sapeurs-pompiers.
Mmh.
Donc il se trouve donc juste à côté de l'hôpital Trousseau. Donc voilà.
Et de là,
donc tous les appels arrivent à cet endroit. Donc je vous dis quel que soit le numéro 15 18, vous arrivez au même endroit. Et après suivant l'opératrice ou l'opérateur, donc vous nous demandez renseignements. C'est pour ça que bon, alors c'est un conseil aussi que je donne. Donc si toutefois il y a quelqu'un qui aurait des doutes, il faut surtout écouter l'opérateur ou l'opératrice et écouter les questions.
Un maximum d'informations passe par là.
Un maximum d'informations, donc se laisser guider par l'opérateur et l'opératrice. C'est vrai que l'opérateur ou l'opératrice, la première chose qu'elle va essayer de savoir, c'est la commune. Et
c'est
vrai
pas
que
forcément
c'est pas
la
première
chose
qu'on veut dire.
Il y a le feu
ou voilà, il y a un accident et puis on veut commencer à donner
dans
le nombre des victimes,
ouais.
Et pas spécialement le lieu. Et il faut commencer par le lieu parce que si toutefois, bon voilà, il y a une coupure de communication, quoi que ce soit, on saura déjà à peu près à quel endroit envoyer des pompiers. même si on ne sait pas trop pourquoi, mais on pourra au moins envoyer un véhicule pour déjà des secours tout de suite si y a une coupure téléphonique à ce moment-là.
Autre chose sur les interventions, sur les numéros et la centrale d'appel, non ?
Non, bah non, pas spécialement. Hein. De toute façon, bon, voilà, être le plus calme possible et d'avoir le plus de renseignements possible.
Ce qui n'est pas,
voilà, pas toujours évident. Faire attention aussi sur les autoroutes, parce que bon, beaucoup de personnes se servent de leur téléphone portable sur les autoroutes. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas où ils sont. Donc, c'est essayer d'utiliser au maximum les bornes d'appel.
Les bornes oranges, elles sont reliées à ces centrales.
Et sont reliées donc au moins au secteur d'autoroutier. Et là, à partir de ce moment-là, ils savent où vous êtes, dans quel sens vous êtes.
Forcément, c'est localisé. Ouais.
Que, bon, par téléphone portable, c'est pas toujours évident. Et les personnes ne savent pas toujours où ils sont. Et les délais d'intervention, là, peuvent se rallonger, mais c'est de se doubler, voire et même tripler avant d'avoir un véhicule sur les lieux.
Est-ce que tu peux nous dire à quoi vous êtes rattaché, vous, Hamon, à l'échelle régionale, nationale ? On entend souvent parler du SDIS, du service départemental d'incendie et de secours. On sait qu'il y a, également un centre de formation sur, entre Ortan et Ballan. Ça paraît un peu mystérieux, cette espèce de camp au milieu de la nature. Est-ce que tu peux nous dire sur ces infrastructures ?
Alors, pour le SDIS, c'est départemental, un service départemental d'incendie et de secours. Nous sommes donc sous l'égide du conseil départemental.
Oui.
Donc, c'est, voilà. Et après, donc, tous les SDIS sont raccrochés donc, au ministère de l'Intérieur.
D'accord.
Voilà, au niveau national.
Donc, les 65 casernes du département, c'est ça ?
Les 70 casernes du département sont rattachées donc au conseil départemental, le SDIS, donc conseil départemental, et de là, on est après, de toute façon, on est sous l'égide du conseil du ministère de l'Intérieur.
Donc, à Ballan,
pour les sapeurs-pompiers donc, départementaux.
C'est très clair. À Ballan, c'est un centre de formation, c'est ça ?
Alors, à Ballan, c'est un centre de formation donc pour sapeurs-pompiers, hein, professionnels, volontaires.
On parlait de JSP tout à l'heure, mais c'est en gros, là, c'est le centre pour les adultes, entre guillemets.
Pour les adultes et pour les jeunes sapeurs-pompiers aussi, parce que les jeunes sapeurs-pompiers se déplacent quand ils ont le certificat JSP 4 et brevet de jeunes sapeurs-pompiers. Donc là, toute la semaine, justement, ils y étaient encore jusqu'à hier soir, donc 3 jours. Et ils ont 3 jours aussi la semaine prochaine donc, pour valider justement leur formation donc, qu'ils ont effectuée dans leur centre de secours, la valider.
Tout à l'heure, tu parlais de casse-tête pour remplir les plannings. Parfois, il y a un vrai manque il y a un vrai besoin de ressources humaines d'une façon générale hein, pour tous les pompiers à l'échelle nationale ou plus particulièrement à Mont. Et comment on fait pour si on veut s'engager à 35 ans, 40 ans est-ce que c'est trop tard ?
Alors, donc à Mont, donc 45, c'est un centre, donc au niveau personnel, c'est correct.
Ouais. Hein,
donc voilà. Sur la couronne de Tours, nous n'avons pas trop de soucis. Hein. C'est plus donc, sur les centres qui sont en ruraux que là, on commence à avoir vraiment des soucis. Le recrutement est très difficile sur les centres donc ruraux du département.
Mais à Mont, il n'y a pas à se plaindre.
Mais à Mont, donc, on n'a pas à se plaindre. Et puis, on a les sections de jeunes sapeurs-pompiers qui sont là. Hein. Donc, c'est le vivier, hein. Il n'y a pas de secret. Hein. 750 jeunes donc dans le département. Ce qui représente environ 45 à 50% des recrutements annuels donc, en sapeurs-pompiers volontaires. Donc voilà, donc c'est tous des centres qui ont des sections de jeunes sapeurs-pompiers arrivent à être sauvés grâce à ça. Quoi.
S'engager à 40 ans, c'est possible ?
S'engager à 40 ans, c'est possible. Hein, parce que de toute façon, on peut aller pompier volontaire jusqu'à 65 ans.
Je ne sais pas courir.
Donc,
si on a un problème physique.
Physique. Alors, il y a des tests sportifs.
Il y a des tests quand même.
Il y a des tests sportifs pour être recruté, c'est clair.
Un minimum.
Donc, il y a un minimum requis. Donc, à partir du moment que, bon, à 40 ans, on est encore jeune. Donc,
on peut. Totalement. Donc, on peut servir.
On peut encore servir. Et puis, si on prend 40 ans jusqu'à 65, ça fait quand même une carrière de 25 ans. Donc, quand on voit que, en moyenne nationale, on est à 9 ans, 12 ans. Entre 9 et 12 ans, hein, ça dépend des départements. À 40 ans, des fois, ça peut être intéressant. Et puis, c'est la personne 40 ans, les enfants, il les a plus trop en charge. Et il peut être un peu plus libre pour faire ce genre d'activité.
Merci Thierry d'avoir été avec nous sur la rage. Bon courage pour l'avenir, pour la suite. Bon courage aux jeunes sapeurs-pompiers qui passent des examens et qui évoluent dans tout cet apprentissage. La caserne de Mont, vous pouvez pas la manquer. Elle est située sur la route d'Artanne, à la sortie du bourg de Mont. Voilà, merci Thierry d'avoir été avec nous. On envoie Don't Stop Sunday. On se retrouve juste après avec Valérie Guillermic. À tout de suite.